Alors, on va montrer directement les deux beaux bouquins, qui sont donc les deux premiers tomes de la réédition de tous les romans et contes de Jean Rey, chez Alma. C'est un événement, et c'est pour ça qu'on va en parler avec François Angelier, journaliste, animateur de radio, l'émission Mauvais Genre sur France Inter. France
Culture. Oui, Culture, oui, ça.
Écrivain aussi, ça lui est arrivé. Oui. Xavier Mauméjean, auteur et amateur de Jean Rey. Alors, Jean Rey, pour nous, c'est quelqu'un d'important parce que ça, moi en tout cas personnellement, mais je crois que pour mes deux compagnons, c'est la même chose, c'est une littérature qui m'a mené aux littératures de l'imaginaire. C'est grâce aux belles couvertures de Henry Levens chez Marabout que je suis tombé sur les histoires de Jean Rey, les contes du whisky, les 25 meilleures histoires noires, Malpertuis, Le Grand Nocturne, et je citerai encore les contes noirs du golf, les contes de Canterbury, etc. Toutes ces beaux livres que nous sortait Marabout dans les années 60 jusqu'aux années 70. Et Jean Rey, qui est mort d'ailleurs en 1963, avait écrit tout ça depuis les années 20, je crois, puisque les contes du whisky, c'est 1925. Alors, ce que je voudrais d'abord demander à François, c'est pourquoi c'est un événement, cette réédition, c'est-à-dire surtout, pourquoi est-ce que depuis 20 ans, il n'y avait plus eu de réédition de Jean Rey et que ceux qui voulaient le lire devaient se contenter d'un Malpertuis édité chez Espace Nord, qui est la collection patrimoniale de la littérature belge, et en bouquinerie des bouquins Marabout et aussi des bouquins parus chez Néo.
Et Opta, oui.
Et Opta.
Alors, disons que l'absence de Jean Rey depuis des années et des années, je dirais, non seulement en librairie et dans le monde éditorial, mais également à la télévision, parce que on interdit à personne de vouloir adapter Jean Rey, et au cinéma et en bande dessinée, était due à une gestion aberrante et singulière de ses droits littéraires et de sa postérité éditoriale. Je vais pas citer de nom ni rentrer dans les détails, mais en définitive, toutes les demandes qui étaient faites pour adapter Jean Rey recevaient une fin non-recevoir. Donc on ne pouvait rien faire autour de Jean Rey. Il y avait une agent littéraire et un avocat qui avaient peut-être mal lu leur feuille de route et mal défini leur fonction. Ils avaient peut-être compris qu'être agent littéraire, ça consistait à étouffer un auteur. En tout cas, là, nous aurions une énorme réussite. Mais enfin, en tout cas, c'était ça. Moi, je me souviens d'avoir eu cette personne au téléphone pour adapter Harry Dickson sur France Culture, avec Jean-Paul Fargeau à l'époque, et Alain Truta, qui était un grand nom de France Culture, et que je salue la mémoire. On m'a fait oui, et puis rien du tout, la lettre allait pas bon. Donc, il y avait une espèce de glaciation totale, Jean Rey, rien n'était possible. Les seules choses qui ont été possibles, je dirais, sur un plan vraiment sérieux, c'était l'amicale Jean Rey, Arnaud Huftier, André Verbruggen, qui éditaient des textes rares, indisponibles, ou qui ont édité en 22 tomes les facsimilés d'Harry Dickson. On pouvait le lire tel que le lisaient dans les années 30, ceux qui donnaient 4 sous pour les acheter dans les kiosques. Voilà, c'était tout. Donc, il fallait absolument attendre que les choses cessent. Parce que l'absence de Jean Rey, imaginez, je ne sais pas, moi, l'absence de Flaubert, l'absence de Delacroix, l'absence de, je ne sais rien, moi, de Gustav Mahler, enfin, ça fait partie des murs porteurs, des voix absolument nécessaires, des noms fondamentaux d'un monde qui est celui de la littérature, littérature fantastique, et bon, plus rien. Donc il y avait vraiment un trou, là, quelque chose qu'il fallait combler. Bon, les choses ont évolué et on a pu lancer cette aventure. Et l'idée, c'est de la lancer sur des bases un peu nouvelles, puisque jusqu'à présent, il y a eu effectivement les genres originaux, surtout la tranche 25-45 du XXe siècle, depuis les contes du whisky jusqu'à la fin de la guerre. C'est là où il publie le fort de son, avec la Renaissance du livre et autres auteurs. Après, il y a eu, alors, Barognan, Henri Verne, à jamais reconnaissance éternelle, pardon. Ça a été Marabout fantastique, qui pour moi est du domaine du sacré absolu. Donc ça, c'était un deuxième moment Genrais, puisqu'on a tout eu, là, avec Henri Liévin, c'est les 16 tomes d'Harry Dickson. Et puis après, il y a eu les Oswald avec l'aventure, enfin, je cite pas Corneuf et d'autres, mais enfin, je prends les moments vraiment les plus nodaux. Il y a eu, Néo avec les couvertures de Nicolet et les 20 tomes d'Harry Dickson et tout ça. Alors, fallait redémarrer sur d'autres bases, c'est-à-dire que l'idée était de revenir avec Arnaud Huffetier, donc qui est le directeur scientifique, comme on dit, de l'entreprise, de revenir aux textes originaux. C'est-à-dire que pour des raisons à la fois idéologiques et éditorial, de confort peut-être, de lecture, les textes n'étaient pas ceux des origines. Donc on a là donné les textes premiers, c'est-à-dire effectivement vous avez les passages antisémites, et vous avez des noms qui ont été rectifiés, et c'est l'intégralité du texte, parce que c'est quand même bien la moindre des choses, que l'auteur soit livré dans son intégralité, il pose effectivement les mêmes problèmes que Jules Verne ou Simenon, mais à leur manière, mais... Voilà, donc c'est le genret nécessaire, fondamental, et le genret intégral. Donc avec en plus, Arnaud Huffetier ayant consacré à genret une thèse, La chimiste du mystère, énorme livre, absolument phénoménal. Donc il fait des postfaces qui sont très éclairantes, on met une biblio, voilà. Enfin, c'est surtout l'idée que genret est de nouveau présent, qu'il est réouvert au transit, si j'ose dire. On peut visiter, on peut circuler, on peut y aller, et qu'en plus c'est dans des conditions que nous jugeons les meilleures.
En fait, ce qu'on avait gommé pendant les parutions chez Marabout, un peu après la guerre, c'est des noms qui paraissaient antisémites et des interjections.
On avait lissé le texte.
Et parfois, on avait même coupé quelques parties de texte. Ce n'était pas caviardé totalement, mais malgré tout, ce n'est pas l'édition originale. Mmh. Et voilà pourquoi on revient aussi. J'ajoute que derrière Les Contes du Whisky et La Cité de l'Indicible Peur, qui sont les deux, donc un recueil de contes et un roman, il y a encore quelques nouvelles qui ne sont apparues part dans les différents recueils parus.
Voilà, il y a des raretés, des collecteurs que Arnaud Huffetier a déniché avec André Verbruggen dans des publications aussi nécessaires, dans des revues tout à fait microscopiques ou des choses totalement disparues.
Alors Xavier, pourquoi est-ce que cette édition, réédition genrée est indispensable?
Alors, pour toutes les raisons qui ont été évoquées jusque maintenant, et je préciserai que dans Les Contes du Whisky chez Alma, Arnaud Huffetier a retenu le premier texte écrit en français par Genrey, qui est mon ami Jean, qui n'est pas le premier publié, mais le premier texte écrit en français. Donc il y a un travail d'exhaustivité qui est très important. Et puis, d'avoir rétabli le texte permet en fait non pas de déclencher des polémiques, mais de nourrir les personnages qui étaient déjà forts dans les précédentes éditions, mais qui là deviennent vrais. Par exemple, les marins de Genrey parlent de tout ce qui leur passe par la tête au gré du whisky. Et il était dommage que certains égarements soient coupés. Oui. On ne coupe pas du whisky.
Oui.
Et pour ces raisons, donc, il était important et nécessaire que ce soit publié. Maintenant, à titre personnel, j'ai une espèce de bouffée de nostalgie en relisant les genres, parce que pour ma part et en tant qu'auteur d'imaginaire, il est formateur, puisque quand je suis arrivé vivre dans le Nord à 14 ans, un écopin de collège... dans toutes les bouquineries qu'il y a dans le Nord et en Belgique, m'a fait connaître Genrey. Et donc, tout ce qui était du Nord et qui semblait venant du Sud, triste et pauvre, les écluses, les ruelles, la brique, se sont enchantés immédiatement avec Genrey. Et moi, c'est indissociable de mon arrivée dans le Nord et de cette nourriture fantastique qui est vraiment typique du nord de la France et plus encore évidemment de la Belgique. Et puis enfin, à titre cette fois-ci strictement éditorial, ça n'a pas vieilli. C'est-à-dire qu'il était absolument important qu'un jeune lectorat, j'entends parler à des gens qui ne l'ont jamais lu, découvre la puissance totalement originale et fantastique de genrer. Samedi dernier est passé à France Culture la première heure d'adaptation des contes du whisky, et donc on pouvait écouter genrer, notamment le conte Irish Whisky dit par Lionel Astier, et c'est magnifique. Enfin, il y a une poésie de la langue, des audaces littéraires qui font que fond et forme, c'était absolument majeur comme réédition.
Quelle est la place de Jean Rey dans la littérature française ?
La française, c'est un peu compliqué à dire. Disons que il a été très tôt reconnu par, dès les contes du whisky, reconnu par le milieu littéraire français. C'est ce que rappelle Huftier. Marcel Arlan à la NRF très rapidement parle d'une voix, d'une nouvelle voix. Les conteurs fantastiques, c'est avant tout des voix. Enfin, donc, d'une voix tout à fait nouvelle, essentielle. Dans le Figaro, on parle de l'Edgar Poe belge, ni plus ni moins. Et il figure dans la fameuse anthologie Les Maîtres de la Peur, chez Delagrave, je crois, anthologie des années 20. De Albert Dubeux et André Delordre. André Delordre étant quand même le grand seigneur du Grand Guignol, donc spécialisé un petit peu dans l'effet horrifique et l'effet fantastique. Donc il a été repéré tout de suite, et je pense qu'il a été, il a été lu. Il a eu un public français assez rapidement, oui. Il représente, alors, à l'intérieur du fantastique francophone, c'est une école... c'est une école qui a été partagée après par des gens comme Marcel Brion, par exemple, j'élargis, hein, des gens comme Gelderode, c'est-à-dire une espèce de monde qui est celui du réalisme hanté ou de l'hypernaturalisme fantastique. C'est-à-dire, ce sont des gens où on a l'impression que le réalisme poussé dans ses extrêmes limites débouche nécessairement sur une vision paranormale. Enfin, il y a quelque chose... je ne sais plus qui disait, c'était... Léonard de Vinci, repris par Henri Michaud, autre belge, disait, vous fixez un mur, bon, il ne se passe rien, puis au bout si vous le fixez intensément, vous verrez apparaître des chimères sur le mur qui vont se mettre à grouiller. C'est pareil, les boutiques, les échoppes, les intérieurs bourgeois, les petites rues de rien que met en scène Jean Rey, on a l'impression qu'il les a fixées jusqu'à la folie, et qu'à l'extrême de cette vision, de cette fixation, eh bien, sont apparues des horreurs et sont apparues des créatures fantastiques. Je pense que c'est ça, c'est peut-être... Et le grand héritier de Jean Rey, je pense, c'est Brussolo. Je parle sous le contrôle de Xavier Mauméjean. Brussolo est totalement dans cette logique, que ce soit ce qu'il avait fait au Fleuve Noir. Son imaginaire est tellement protubérant, proliférant, et bon, qu'il joue sur... Mais par exemple, les Places de Byzance et de Noël, cette mise... Il adore Jean Rey, d'ailleurs, il en témoignera bientôt dans un magazine français. Il y a cette idée que... Bon, c'est pas la peine de créer des monstres, des royaumes imaginaires, ex nihilo comme ça. Il suffit d'être dans le quotidien et d'attendre ou de se situer au bon axe. Et Yann Plougastel avait publié justement sur cette réédition dans Le Monde un article qui s'appelait « Le Stephen King ». L'ancêtre de Stephen King, je sais pas quoi. Alors évidemment, ça a l'air d'une formule comme ça. On a cité Stephen King, on est tranquille. Non, je pense que c'est assez futé, parce qu'effectivement, King, c'est quoi ? C'est le petit lotissement, le McDonald's, c'est le monde de l'American Way of Life sous son aspect le plus bon, le plus tranquille, Castle Rock, il ne se passe rien de spécial, à part le barbecue de l'école municipale, la bibliothèque municipale, la fête annuelle et tout ça. Et ben c'est là où un clown, un joueur apparaît avec des ballons, c'est là où quelque chose commence à mûrir, à germer, et où l'horreur apparaît. Bon, je crois que Jean Rey, on est dans un phénomène similaire, c'est-à-dire que... Et donc, il a très bien marché avec cette école du réalisme, du fantastique français, qui part du réalisme, Marcel Aimé, Marcel Brion, Château Renaud, tout ce monde-là. Et il appartient un peu à cette famille.
Ah, je voudrais ajouter que dans Jean Rey, on trouve une sorte d'équilibre entre le singulier, le particularisme, pratiquement le régionalisme, dans sa dimension positive, et l'universel, parce que Jean Rey parle de la Belgique et du Nord, parce que vraiment c'est exactement la même chose, et il arrive à décrire des états de la société, et que quand on habite là, on connaît, et je pense par exemple au dimanche. Jean Rey est un écrivain des dimanches, mais les dimanches qui étaient déjà stigmatisés par Hegel, quand Hegel dit le dimanche de la vie, c'est l'idéal bourgeois. C'est-à-dire que s'il fallait inventer un paradis pour les bourgeois, ce serait le dimanche, avec ses repas interminables, ses promenades digestives, qui permet juste d'atteindre le souper, puisqu'il ne faudrait pas qu'il y ait deux trous entre les deux. Et Jean Rey a poussé, il a au moins consacré deux textes au dimanche qui sont hallucinants. Il y en a un, et en plus donc, ce sont des dimanches belges, des dimanches du Nord, mais c'était aussi, bien sûr, des dimanches bourgeois français et partant universels. Il y a un texte qui s'appelle « Tête de lune » qui sera repris par Alma dans le recueil « Le carrousel des maléfices » qui, pour moi, est l'un des plus beaux textes jamais écrits, qui n'a jamais été écrit dans la veine fantastique. Je le tiens pour un des textes majeurs de l'écriture mondiale, qui est très simple. Un petit garçon... lors d'une promenade digestive familiale après un banquet du dimanche, voit une petite fille avec une tête blanche, de peau maladive, une tête ronde, une tête de lune. Et sa mère est pareille. Bon, puis les années passent. Alors, tout ça dans une ambiance pesante, de tente, trop parfumée, criarde. Et des années passent, lui, il a fait le tour du monde, il était marin. Et il revient sur place et il voit une petite fille qui est exactement pareille, et qui est, bien sûr, apparentée à la précédente, il la jette dans le canal. Et à partir de là, on ne sait plus s'il va revivre éternellement ce dimanche, si c'est donc une partie fantastique, ou s'il est fou, ou si c'est même le petit garçon qui s'imagine une vie entière lors d'un dimanche, mais c'est l'horreur des dimanches bourgeois. Et c'est magnifique. C'est aussi, mine de rien, comme tu disais, le mine de rien, c'est aussi extrêmement virulent et acide contre une certaine bourgeoisie qu'en plus, il a moqué par ailleurs quand il était chroniqueur au journal de Gand. Hein, faut voir quand il rencontre des chroniques théâtrales, ça tape sur tout le monde, sauf sur la pièce. Il tape sur les élus.
Comme
il tape
sur,
oui. Et donc, il y a aussi une dimension, il ne faudrait pas l'exagérer, mais il y a une dimension forte, en tout cas critique, sociale, chez Jean Rey. Il y a aussi donc une dimension, d'une certaine manière, politique.
Oui, tout à fait.
Les Contes du Whisky et La Cité de l'Indicible Peur, tu nous dis un peu de quoi ça parle pour que les gens qui ne connaissent
pas... Je vais laisser les contes à... je vais laisser le whisky à un fin connaisseur des purs maltes qui est Xavier Beauméjean. Alors, La Cité de l'Indicible Peur, on est totalement dans ce que vient d'évoquer Xavier, c'est-à-dire totalement le dimanche de la vie. On est à Ingersham, une petite bourgade des profondeurs de l'Angleterre, où véritablement, il ne peut pas moins se passer de choses qu'à Ingersham. Et c'est là, justement, la mécanique de Rey tourne presque à la folie, c'est qu'on est dans un conformisme, une quiétude, une espèce de morosité pendulaire et d'abrutissement, un confinement tel, c'est le calme poussé jusqu'au délire. C'est atrocement pondéré et calme, cette ville. C'est effrayant, tellement il ne se passe rien que ça finit par être un événement. Et ça, Jean Rey, en bon disciple, je dirais, du naturalisme français et belge, les Camille Lemonnier, les Octave Mirbeau et tout ça, et en grand lecteur de Dickens, aussi fin analyste des réalités bourgeoises et tout ça, excelle. Alors il décrit évidemment la mairie, alors on est très content parce que Charles Quint s'y arrêtait à un quart d'heure il y a 10 siècles, donc tout le monde est très fier, et c'est la mairie. Voilà. Et sinon, il ne se passe rien dans la mairie, quelques pré-retraités éternels, ils grossoient des dossiers à n'en plus finir, il y a un calligraphe génial qui couvre de son écriture sublime des dossiers vides, enfin voilà, il y a évidemment le maire, quelques notabilités, une espèce de galerie, un peu genre Galerie Lafayette, mais à l'échelon microscopique où le personnage est assez délirant puisqu'il a... Il a comme maîtresse un mannequin, il ne faut pas trop en dire. Et c'est une espèce de pâle copie des musées londoniens. Enfin bon. Voilà. Et ça, c'est absolument génial. Et il propulse à l'intérieur de tout ça le retraité de Scotland Yard, qui n'est même pas, alors qu'on baptise tout de suite un surintendant à la retraite, qui est en définitive un agent de bureau de la police de Londres. à qui un de ses supérieurs, qui l'avait en estime, a offert une maison sur place, et en lui disant bah, « va aller s'installer là-bas ». Et donc il arrive là, et brusquement, sa présence accompagne la découverte. Alors il y a un fantôme dans l'affaire, mais un fantôme qui ne sert à rien, c'est ça qui est génial chez Jean Rey, parce que le surnaturel manifesté soit est faux, soit est totalement sans intérêt. Et puis des crimes se commettent, et l'atmosphère de quiétude, le côté cosy jusqu'à la folie, tourne à l'horreur. Alors on ne va pas vous en raconter plus, parce qu'il faut lire le texte, et il faut apprécier cette mécanique qu'il met en place. Mais c'est effrayant, je veux dire, on voit là, je pense que c'est un des textes les plus caractéristiques de la méthode, enfin pas de méthode, il n'y en a pas, mais de la vision de Jean Rey, c'est-à-dire la ruelle ténébreuse. La ruelle ténébreuse, normalement, c'est une ruelle où personne ne passe jamais, où il y a des façades mornes et des petits intérieurs sans intérêt. C'est là où la folie circulaire apparaît, mais là, c'est pareil. On commence à avoir des événements, c'est des craquelures, des fendillements, des bruits étranges, et peu à peu, c'est comme la maison Usher, Ingersham s'effondre dans la nuit, au coup de boutute, au coup de boutoir, d'une sorte de puissance maléfique. Voilà, c'est absolument génial dans cette capacité qu'il avait à ronger jusqu'à la mort des réalités qui apparaissaient stables et définitives.
Les contes du whisky, Xavier ?
Les contes du whisky, c'est complémentaire de ce que vient dire François Angelier. C'est une autre veine de Jean Rey. Il fera l'exercice au minimum deux fois. C'est le lieu, l'auberge. Donc il le fera aussi magnifiquement dans les derniers contes de Canterbury. Donc vous avez un lieu où des gens qui ne se connaissent pas ou peu se rassemblent, tous les milieux sociaux, là de préférence les marins et les prostituées. Et on va raconter des histoires, des contes. C'est pas des nouvelles d'ailleurs. Jean Rey parle de contes, hein,
oui,
toujours.
C'est
il parle
contes.
De contes, oui. Et qui vont donc raconter des épisodes sur terre ou sur mer qui sont complètement hallucinants. Il y en a deux qui sont magnifiques, tous sont magnifiques, mais 3, 4, 5, c'est difficile. Il faut pas choisir en fait. Mais par exemple, dans différents genres, vous avez celui qui ouvre le recueil Irish Whiskey, qui commence par une espèce de délire légèrement aviné. Au fur et à mesure qu'on ouvre les flacons, le récit se précise et devient insupportable. La fin est d'une cruauté invraisemblable. Mais tous les effets sont amenés petit à petit, notamment l'avant-dernier effet sur l'implication du narrateur, qui fait qu'on ne comprend qu'à la fin ce qui se passe et en quoi il y a vengeance, ce qui est magnifique. Très beau récit aussi également dans les contes du whisky de vampires, le gardien du cimetière qui est un très très beau récit de nuit et de cuisine, puisqu'on cuisine aussi souvent et là aussi chez Jean Rey. Et alors un magnifique récit qui n'a rien de fantastique sur les prostituées des ports, qui s'appelle Petite femme au parfum de verveine, et qui est remarquable de douceur, de gentillesse pour ces filles de rien qui sont tout en fait pour les marins. C'est vraiment une excellente introduction à l'univers de Jean Rey, les contes du whisky, en complément de la forme romanesque qui est la cité de l'indicible peur, qui, moi, la cité de l'indicible peur me fait penser si Emmanuel Bove avait organisé le carnaval de Dunkerque,
oui,
le carnaval de Binche.
C'est entre Ensor et Emmanuel Bove. Oui, il y a de ça.
Mais d'après ce que tu viens de dire, Xavier, Jean Rey est pour nous un écrivain fantastique, mais il n'est pas que fantastique.
Absolument.
Parce que le fantastique est une dimension de son écriture, mais ce n'est pas le principal.
Ah ben tout à fait, et c'est pour ça que la comparaison faite avec King est en fait assez judicieuse, Jean Rey cisèle des petits bijoux de réalisme. En fait, l'ambiance est toujours aussi forte parce que elle est tendue, elle est toujours étrangère. On découvre au hasard d'un coin de rue quelque chose qu'on n'attendait pas, mais il n'y a pas nécessairement un argument fantastique. D'ailleurs, sans trop en dire, dans La cité de l'indicible peur, il est très très bien endigué à la portion congrue, très efficace, mais à la portion congrue.
En fait, oui, ce n'est pas un écrivain du Grand Guignol et du Grand Théâtre Sanglant.
Pas du tout, c'est un écrivain, je veux dire, qui part d'un socle réel, d'un réalisme naturaliste. D'ailleurs, on parlait de la nourriture, la place de la gastronomie et de la nourriture est essentielle chez Genrec. Elle n'est pas, c'est pas l'écrivain gastronome qui en profite pour vous placer la bonne... Non, ça a une fonction extrêmement précise dans son récit, qui est de le sécuriser, de lui donner une assise réaliste forte et une truculence et un confort comme ça. Et alors, à côté de ça, et c'est là, la nausée vient de là, enfin, je veux dire, le vertige vient de là, c'est qu'on est accueilli dans cette réjouissance gastronomique et après arrive l'horreur. Et donc, c'est cette espèce de conflagration entre... brusquement des abominations qui, d'ailleurs, qui n'ont pas véritablement de forme précise, on en voit les effets plus que l'objet lui-même, qui viennent contrebattre cette richesse comme ça concrète et réaliste. Et là, c'est un peu ça, c'est une espèce de sentiment par moments de nausée violente du fantastique de Ray vient de là.
Et le fantastique de Ray est un fantastique, me semble-t-il, totalement livresque littéraire, je veux dire. Les deux ou trois adaptations qu'il y a eu de ses œuvres ont été assez ratées. Le Malpertuis de Harry Kummel est raté par la fin, qui en fait un rêve à la con. Et le film de Jean-Pierre Mocky sur la cité de l'indicible peur avec Bourvil est assez raté.
Ah, moi j'aime beaucoup, mais peut-être pas pour de bonnes raisons, mais moi j'aime déjà Raymond Rouleau me fera toujours rire, non, c'est bon. et Poiret aussi, mais ce que je veux dire, non, c'est que le problème heureusement le fait, c'est que Jean Rey, c'est d'abord un écrivain, c'est d'abord une langue, et il pose les problèmes que posent tous ces auteurs qui sont d'abord des langages, c'est-à-dire Céline, Proust, Gombrowicz. Vous essayez les éternels non adaptés. Gombrowicz, récemment, il y a une tentative, Zulawski, bon, moi, que je n'ai pas trouvé effectivement très, très abouti. Quant à Proust et Céline, c'est vraiment le Loch Ness. On attend régulièrement Voyage au bout de la nuit, Nord, ou la recherche du temps perdu, et puis ça va jamais. J'en reste un peu ça, d'autant plus que la manière qu'il a de mener sa barque, si j'ose dire, sur les gouffres, est un peu difficile. Prenez les contes du whisky, c'est un peu la phrase de Calvino, si par une nuit d'hiver un voyageur, on a l'impression qu'on marche et puis quelqu'un vous attrape par le bras et commence à vous, sans que vous le vouliez, sans que vous compreniez vraiment ce qui se passe, commence à vous raconter une histoire à l'oreille. C'est un peu, vous êtes dans le métro, dans un bistrot, vous êtes occupé à quelque chose et bien, quelqu'un s'assoit à côté de vous, vous dites donc... tu te souviens la nuit, alors, vous ne connaissez pas la personne, vous ne savez pas de quoi il vous parle, et en plus il vous souffle au nez une haleine de mort-vivant, et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, mais voilà, c'est un peu ça les contes du whisky, c'est quelqu'un qui vous agrippe, qui commence à vous raconter, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous raconte une histoire où vous ne comprenez rien, à vous qu'il ne connaît pas non plus, et sans raison, donc... Et là déjà, dans le simple dispositif narratif d'oreille, c'est déjà terrorisant. Et en plus de ça, quand il vous raconte des histoires de vampires, des histoires d'entités comme ça qui coupent les gens, qui amputent les gens de la moitié de leur corps quand ils se pensent à une fenêtre. Enfin bon, parce que justement, là encore, ça n'est pas un fantastique figuré. Il y a une nouvelle qui est reproduite où un homme vient enquêter sur des disparitions qui ont lieu autour d'un observatoire. Et puis à la fin, on ne va pas trop en dire, mais bon, à la fin, ces disparitions semblent justifiées par l'action d'un monstre. Bon, Jean Rey règle la question du monstre en quatre lignes. De même dans Harry Dixon. Dans Harry Dixon, il y a des démaquillages violents qui font que, voilà, l'horreur frontale, l'horreur visible, n'est en définitive qu'un... Elle vient d'ailleurs, l'horreur, elle consiste en autre chose qui n'est pas vraiment figurée.
Ah, il est... pas adaptable ou n'a pas été adapté en image, mais par contre, dans la mesure où justement sont des contes, il passe très bien à la radio. Étienne Vallès a adapté en lecture, justement, pas en interprétation, en lecture, les contes du whisky. La deuxième partie passe d'ailleurs ce soir sur France Culture. Nous sommes... samedi sur France Culture. Et... ça passe très très bien.
Oui, ça passe bien. Et d'ailleurs, un des moments forts qu'on pourrait dans les archives de l'INA, enfin de France Culture, c'est l'intégralité de La Ruelle Ténébreuse lue par Michel Bouquet. Oh là. Bouquet, c'est quand même une manière de lire qui ne joue pas sur les effets, qui est tout dans une espèce de truc. Et ça dure 45 minutes. Et c'est très étonnant parce qu'effectivement, l'air de rien, il vous emmène vraiment vers des choses très étouffantes, très angoissantes. Et non, c'est grand poète, grand écrivain. Donc la lecture des contes est déjà quelque chose de fort.
On parlait de Harry Dickson. Les Harry Dickson ne seront pas republiés par Alma.
Ça n'est pas envisagé, mais tout est possible, vous savez. Il faudra bien un jour qu'on publie les Harry Dickson, donc ce sera l'un ou l'autre.
Pour ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais bien que l'un de vous parle de la façon dont Genret écrivait les Harry Dickson.
Il les écrivait vite, puisqu'il paraît que certains ont été écrits en nuit, mais en fait... on dit toujours qu'il a repris Harry Dickson, mais en fait, il l'a inventé. C'est-à-dire qu'il a, c'est un peu comme il a existé un Hercule Poupou avant Hercule Poirot de Mary Bellockdown. Personne ne le sait. Le Harry Dickson, c'est Genret qui l'invente. Et ce qui est très étonnant, bon, parce qu'on le compare nécessairement à Sherlock Holmes, c'est que quand on prend Sherlock Holmes... Le monde, le réel, s'adapte à ce que dit Sherlock Holmes. Si par exemple Sherlock Holmes, en voyant que vous avez un jouet d'enfant dans la poche, va dire il est père d'un enfant de 12 ans, c'est certain. C'est-à-dire que vous n'avez pas un jouet d'enfant parce que vous allez le passer à votre voisin. Vous avez effectivement un enfant de 12 ans. Le réel s'adapte au discours de Sherlock Holmes. Donc il y a une sorte de rationalité folle qui ordonne le réel autour du détective. Harry Dickson, c'est tout le contraire. Harry Dickson ne déduit jamais rien, jamais. Il se promène, souvent au British Museum. Il sourit pendant que Tom Wills crie ou s'écrie ou hurle. Tom Wills ne parle jamais. Il est toujours en train de s'écrier, de hurler Tom Wills. Et il se promène. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on lit les Harry Dickson, c'est exactement l'opposé de Sherlock Holmes. On dirait que Harry Dickson est le seul personnage rationnel de l'univers inventé par Genret. C'est le seul qui ait quelques bribes de rationalité. Tout le monde est fou. Par exemple, le British Museum, qui est régulièrement revisité ou visité par les entités ou tout simplement les malfaiteurs d'Harry Dickson, le British Museum n'est composé dans son administration que de psychopathes, de mégalomanes, de malades mentaux. Et il y a une sorte de délire permanent qui est en général réduit dans les dernières lignes à quelques phrases de Genret qui n'a rien d'Harry Dickson et par Genret qui n'a rien déduit du tout, mais qui tout simplement arrête le jeu. Harry Dickson va dire oui, c'était une entité babylonienne qui s'est vissée à tel siècle. Tout le monde se dit ah bon, bien puisque c'est ça, on se dit bons amis, c'est bien. Et c'est fini. C'est-à-dire que Dickson est le témoin d'un monde qui hurle sa folie et qui prend ça de tout à fait bien. C'est très étonnant. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement voir Dickson comme l'envers, comme l'enfer de Sherlock Holmes.
Il y a une légende à propos de la façon dont il écrivait les Harry Dickson, ou bien c'est la réalité.
On raconte qu'il les écrivait d'une traite de nuit, avec un paquet de tabac et une bouteille de rhum, à bord d'un bateau. Beaucoup de bateaux fantômes dans la vie de Genret. Le premier, c'est celui avec lequel il faisait du trafic d'alcool entre l'Irlande et les côtes américaines. Lui qui n'a jamais quitté Gand, ou presque pas, peut-être pour venir à Paris, pour voir Maurice Renard. Mais ça, c'est le premier bateau. Et le deuxième, c'est le bateau... On raconte qu'il écrivait Harry Dickson comme ça. Pourquoi pas?
Mais est-ce que les gens ne veulent pas qu'il devait traduire...
Un éditeur contacte Genret, lui dit: tenez, vous voulez gagner un peu de sous, vous allez me traduire ces fascicules que je vais éditer en français,
des fascicules allemands, c'est ça.
Et alors Genret les lit, est atterré, va voir l'éditeur, lui dit: écoutez, c'est tellement mauvais, moi je veux bien les traduire, hein, mais je vous dis, c'est tellement mauvais que vous n'intéresserez personne, ou alors pendant pas longtemps. Alors moi, je vous propose quelque chose, je pars de la couverture et je réécris tout, ou je réadapte tout, mais tellement que ce sera entièrement réécrit. Donc il partait d'une illustration de couverture, et c'est ça qui est assez génial. Le génie de Harry Dickson, il est là. Et il réorchestrait, il réinventait toute une intrigue autour de l'illustration de couverture, au point même que, on est au courant, enfin, si on ne connaît pas les prémices, on ne se doute de rien.
Ah, oui, oui.
Et ça, c'était assez génial. Et il y en a fait une centaine de numéros dans les années 30.
De 1929 à 1938, voilà, exactement. Ça fait combien de...
Ça fait 107 fascicules. Alors, avant, il a peut-être commencé par... ça, oui. Faut... Oui. Alors, parce qu'il y a les Harry Dixon, réécrits par Jean Rey, les Harry Dixon traduits par Jean Rey, mais non réécrits, les Harry Dixon qui ne sont pas de lui non plus. Enfin, il y a toute une catégorie.
Le texte original allemand a été traduit, tu dis, Jacques.
Corneuf, oui, avait donné les textes.
Toute la partie. Et donc, on peut comparer.
Et alors, tu as fait cet exercice?
Pas vraiment.
Harry Dixon attend toujours son heure, d'ailleurs, au cinéma et à la télévision, parce que ça serait... Et alors, en René devait l'adapter dans les années 60. Il y avait un projet qui était assez développé, qui était un peu lovecraftien aussi. D'ailleurs, je crois que le scénario d'Alain René a été publié d'abord en extrait dans l'Erne, puisque les Cahiers de l'Erne avaient consacré un numéro spécial à...
Voilà. Chez Capricci.
Et Capricci l'a ressorti avec...
Voilà.
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 Et donc, on a uniquement les photos de repérage. D'ailleurs, l'album magnifique s'appelle Repérage, et c'est vraiment dommage que rien ne se soit fait, puisque déjà les repérages sont quand même très inquiétants.
Mais comme souvent, tu sais, dans la filmographie, les plus belles sont les films.
Voilà, c'est ça, c'est les films qu'on ne verra jamais. Le Labat d'Huysmans par Buñuel, le Proust de Visconti.
Et le truc avec Romy Schneider de Clouzot.
Qui oui, l'enfer. L'enfer. Enfin, on a quand même pas mal de rush.
Oui. Oui, on parlait de la légende pour les Harry Dixon, mais Jean Rey a toujours dit, faites entendre, ou plutôt c'est Henri Verne qui a dit de lui qu'il avait voyagé de partout dans le monde, etc. La réalité, elle est plus prosaïque.
Ben, en fait, non, c'est vrai. Parce que tout simplement, Jean Rey est une invention, donc on peut lui plaquer tout ce qu'on veut. On peut dire Jean Rey a fait du trafic d'alcool, a été flibustier, puisque de toute façon, c'est son pseudonyme. Donc on peut parfaitement jouer sur les deux dès lors qu'on sait à qui revient quoi.
C'est bien toi qui dois dire ça.
Une fiction réelle, ça vaut mieux que du vrai. Hein.
La légende de Jean Rey date quand même de l'époque marabout, où il a été littéralement réinventé ou inventé et mis en scène par Henri Verne et Jean-Baptiste Barognan.
Alors Barognan était le jeune directeur de la collection chez Marabout, fantastique chez Marabout. Henri Verne est l'immortel auteur bruxellois de Bob Morane. Qui a beaucoup œuvré pour rééditer ça chez Marabout.
Il a véritablement ressuscité, réinventé, il a refait Jean Rey. Ouais.
Il vit toujours Henri Verne.
Oui.
Le bel âge maintenant.
Ben oui, le...
Puis il suit avec intérêt l'édition Alma.
Ben, on en est heureux.
Oui.
Mais donc, outre la réalité littéraire, Jean Rey, objet littéraire, Raymond de Crémer n'a jamais quitté Gand.
Non. Raymond de Crémer, le pic d'aventure, c'est son enfermement pendant. Il était condamné pendant 10 ans. Il en a fait 3, je crois.
Oui, c'est ça. 9 ans, il en a fait 3.
Pour fraude. Par ailleurs, c'est un polygraphe impressionnant. Ce qui est très bien, c'est que Arnaud Huftier a retenu une nouvelle dans Les Contes du Whisky qui s'appelle Mon ami Jean, que j'évoquais tout à l'heure, qui est une nouvelle réaliste qui est très très belle et qui permet de voir justement ce que de Crémer pouvait faire hors genre. On pourrait parler aussi de Flanders, des très belles nouvelles fantastiques. Non, c'est un polygraphe qui a une vie tout à fait calme et tranquille. Il est apparenté à pour ceux qui connaissent Gand, à l'un des fondateurs du Voreut de la Maison du Peuple. Donc c'est intéressant aussi de voir, parce qu'il est un peu à la frontière de tout ce qui pouvait se passer dans cette ville très très riche qu'il demeure culturellement, qu'était Gand. Mais lui-même se tenait en retrait, il était énorme lecteur, faisait quantité de... avec un goût très sûr d'ailleurs en littérature, il recevait beaucoup de services presse, il en rend compte copieusement dans le journal de Gand, il fait des chroniques théâtrales et qui sont du clochemer, elles sont très drôles parce qu'il rencontre justement des histoires de des bisbilles et des rancœurs de province qui sont parmi les plus terribles évidemment, parce que tout est à lire en fait chez De Crémer, hors genre justement.
Oui, il y a 6500 textes.
C'est un calme furieux.
Voilà. 6500 textes recensés, tout pseudonyme confondu, signés par Jean-Marie Raymond De Crémer, sous une dizaine, une bonne dizaine au moins de pseudonymes, voilà. Sous des supports qui vont depuis la nouvelle pour les scouts jusqu'au conte fantastique ou roman fantastique, en passant par des paroles de chansons, des textes pour des revues de musicals. Donc c'est véritablement un polygraphe énorme. Voilà. Énorme. Il meurt en 67, il naît en 84, je crois.
Non, il meurt en 63, il est né en 87.
Voilà,
87,
c'est ça. Voilà. Petite interversion. Voilà. Mais bon, c'est une génération, et il a quand même, c'est comme dit Huftier, c'est l'homme livre. C'est quelqu'un qui aura passé sa vie, non pas à trafiquer sur les côtes du côté de Rhode Island, mais à produire du texte de façon insensée, totalement insensée. Et John Flanders, une autre de ses signatures, évidemment, là aussi, il y a des contes que 10-18 avait repris un moment et qui sont vraiment extraordinaires.
Ah oui, John Flanders, c'est plutôt le pseudonyme qu'il employait pour ses contes en néerlandais, en flamand.
Oui, voilà.
Et qui étaient édités en Flandre, et qui ont été traduits, en effet, chez 10-18. Il y en avait chez nous aussi. Oui. On voit qu'on a affaire à des collectionneurs.
Oui.
Pour les belles couvertures de Nicolet et pour les textes qui sont derrière, quand même.
Mais tu évoquais tout à l'heure Gueldorod, et c'est très vrai. D'ailleurs, je crois qu'ils se connaissaient plus ou moins.
Ah bah oui, bien sûr, très bien. Gueldorod, c'est le grand... Il prix Nobel, non, d'ailleurs, je sais pas.
Non,
il a manqué de l'avoir, on en a parlé. Mais il a... Oui, c'est le grand...
C'est pas tombé loin.
Le grand auteur dramatique... Oui. Flamme belge du XXe siècle.
Et qui a notamment écrit pour un théâtre à Bruxelles qui s'appelle le Théâtre de Thun, qui est un théâtre de marionnettes magnifique, qui joue le grand répertoire en flamand. Et Gueldorod a écrit...
En bruxellois flamand.
D'accord, voilà. oui. Et qui a un tout petit théâtre.
Qui existe toujours.
Oui.
Mais Gueldorod et Jean Rey ont ceci de commun, c'est qu'ils étaient tous les deux des gens qui restaient chez eux, qui écrivaient beaucoup. Gueldorod n'a quasiment jamais quitté son appartement de Skarbek et il a écrit des choses extraordinaires. Et pour ceux qui connaissent...
Gueldorod est un personnage de Jean Rey. Parce que quand on va les...
Alors
déjà, le visage de Gueldorod est quelque chose d'extrêmement inquiétant. C'est quasiment une figure de cire. Un visage un petit peu androgyne, un peu de figure de cire, un peu visage très, très étonnant. Je peux avoir une conversation avec Gueldorod, ça devait être plutôt intimidant.
François Angelier nous apprend aujourd'hui que Gueldorod, en fait, c'était Jean Rey.
Voilà. Et alors, il est photographié dans une espèce de grand fauteuil, entouré de mannequins. Et effectivement, on sent un homme qui est habité par l'immobilité, si j'ose dire, dont le moteur est l'immobilité, et la rêverie et le cauchemar. Et ça, Gueldorod, c'est vraiment très impressionnant pour ça. On retrouve exactement, d'ailleurs, le titre, Faste d'enfer, Le Grand Macabre, c'est des titres de Jean Rey.
Le Jardin Malade,
c'était un de
ses plus beaux contes dans l'édition Marabout.
Et il y avait des contes, d'ailleurs, des contes fantastiques de Gueldorod dans Marabout, Sortilège, très proche, d'ailleurs, de l'inspiration de Jean Rey. Là, on a vraiment une espèce de terroir et de terreau. Très fort, où vraiment il y a une langue commune, qui est une langue richissime, opulente et par la même angoissante, qui est celle de la fin du siècle. Enfin, on est chez Huysmans, Rodenbach, Camille Lemonnier, toute cette espèce de langage qui croule sous les inventions verbales, sous le vocabulaire hallucinant et
Franz
les couleurs.
Franz Hélène,
oui, un peu plus peut-être retenu, un peu plus mesuré, peut-être. Thomas Owen, on n'a pas cité Owen.
Mais c'est un peu plus tard, lui.
Mais là aussi, autre grand personnage avec Cérémonial Nocturne, La Truie, enfin, grand habitué de Marabout Fantastique, La Cave aux Crapauds. Voilà. Et donc, c'est vraiment un... Ça avait été illustré en son temps par Baronian dans cette grande anthologie de la Belgique fantastique. Mmh. Il y avait l'Amérique, l'Autriche, la France fantastique. Et il y avait une Belgique fantastique. Où on peut, si on trouve le bouquin, ce serait bien de le rééditer. Mmh. On peut voir à quel point, à langue commune, chacun joue un coup d'archer et une manière de faire, de solfier ça un peu différente. Quoi.
Et jusque dans cette rencontre entre Marabout et la Belgique fantastique, jusque une écriture plus simple, plus sèche, plus moderne, mais qui a donné des chefs-d'œuvre, qui est Georges Lenglen aussi, avec La Mouche. Qui est formidable.
C'était Les Nouvelles de l'Antimonde.
Voilà, c'est ce voilà, tout à fait cherché. Voilà.
Ouais. Il y a eu un auteur belge qui publie un peu plus tard dans la fiction, qui est Gabriel de Blondel.
Oui. La Nuit du Chasseur, il est décédé, lui. Et il n'a jamais. Il a fait 4 ou 5 romans et recueils de nouvelles, et puis il n'avait pas de succès, alors il a laissé tomber. Il était fonctionnaire, et ça ne l'a jamais nourri.
Qui ça ?
Gabriel de Blondel. Mais il y a en effet en Belgique, et maintenant encore un peu, je trouve, cette espèce de nourriture, du réalisme qui est un peu obvieux, qui se décale légèrement.
On a réussi à pas parler de Maeterlinck, hein, c'est fou quoi.
Oui.
On a réussi à pas parler de Maeterlinck.
De Maeterlinck, oui. C'est vrai que Péléas et Mélisande, c'est une nouvelle de Genret, mais il y a aussi un climat opaque, angoissant et... peu de suicidaire par moment, enfin c'est des noirceurs un peu très, très, très angoissantes. Mais je ne sais pas aujourd'hui si on prend des auteurs belges, francophones très récents ou néerlandophones, quels seraient les.
Il y a Bernard Quérini.
Alors voilà, c'est le seul qui. Ouais.
Mais il vit en France, principal, hein, il vit à Dijon, mais son imaginaire est vraiment celui-là.
Moi j'achèterais Quérini à date très récente, avant Brussolo. Qui ont vraiment repris cette...
Mais Quérini, il est plus dans l'insolite, dans l'ironique, que dans cette poésie du bar, du pub,
pas du tout pareil.
Du siège crapaud.
C'est beaucoup plus quelqu'un qui fabrique des machines infernales littéraires, et qui les... Vous savez, on remonte le...
Mais c'est
et
le même
on le laisse gambader sur la table en voyant un peu... Bon, c'est un peu ça, Quérini, et ça peut, effectivement, quand ça explose... Ça fait mal.
Ouais. Parce que c'est mais c'est plus un enfant de Sternberg.
Ouais. Voilà, plus, ouais. Ou Topor. Ouais.
Qu'est-ce qu'on est... Hein oh. Revenons quand même à Alma. François, toi qui as participé quand même à cette aventure, après ces deux-ci.
Alors, attendez-vous à savoir, comme on dit.
il a pris ses copions.
Alors, pour ce qui est de 2016... Il y a La Croisière des Ombres qui va sortir au mois de novembre, qui est un genre très dur à trouver, enfin, qui est pas vraiment parmi les plus connus. En 2017, c'est une année, il y a 3 titres, Les Cercles de l'Épouvante, Malpertuis. Oui, alors là aussi, c'est Huffier qui maîtrise totalement le côté textologique de ça, mais c'est effectivement les éditions telles qu'elles sont... Original et intégral.
Ouais, c'était paru, je crois, La Renaissance
Oui.
Ou Les Belles Lettres, je ne sais plus.
C'est la Renaissance du Livre, je pense. Renaissance du Livre, voilà. Voilà, avec une sorte... Voilà. Non, Les Auteurs Associés.
Les Auteurs Associés.
Voilà, donc ça, c'est en mai. En novembre, dans Les Derniers Contes de Canterbury, puisque c'est un grand amateur de Chaucer. Et en 2018, c'est le barreau d'honneur et la dernière rafale, enfin au moins pour les textes hors Dixon. Il y a Le Livre des Fantômes en mars, Les Contes Noirs du Golfe en mai, Saint-Judas de la Nuit, considéré par beaucoup de fans comme son chef-d'œuvre en novembre, et on terminera en montant sur le carrousel des maléfices aussi en novembre 2018. Et là, on aura 10 volumes qui proposeront donc le cœur du réacteur, c'est-à-dire le genre, vraiment l'essentiel. Après, évidemment, tout est possible. Après,
et donc là, on a tous les romans et les contes.
Voilà,
signé Genret.
Voilà, signé Genret.
Alors, avec des textes inédits, en tout cas dans cette recomposition d'ouvrages. Puis il faudrait peut-être toucher deux mots, puisque c'est toi qui as eu l'idée évidente maintenant, de l'illustration de couverture.
Oui, alors il fallait trouver quelqu'un, parce que Genret a toujours été, d'une certaine façon, jamais été illustré de manière indifférente. Effectivement, il y a eu de très belles maquettes pour l'édition originale, Renaissance du Livre, Auteurs Associés. Henri Liévin, ça fait époque, c'est des illustrations absolument géniales de l'époque Marabout, sur fond noir, on voyait monter ses visions. Nicolet, à l'époque de Néo, et donc on a demandé à Philippe Förster que les lecteurs de Fluide Glacial et les amateurs d'humour noir et de cocasserie fantastique connaissent bien. dessinateur belge, de s'occuper des couvertures, parce qu'il est à la fois donc, disciple de Jean Rey, grand lecteur, et donc et retrouver cet esprit, justement, propre aux nouvelles de Jean Rey.
Quelqu'un veut-il poser une question ? Oui ?
Au sujet, justement, de la nature des textes, je n'ai pas bien compris. Je dis que c'est revenu au texte, mais moi, tel que je comprends l'édition, il y a un texte d'origine qui est soumis à l'éditeur, ensuite à les corrections éditoriales, tout ça, et c'est ça qui est fini.
Ben, c'est le texte tel qu'il a été publié par Jean Rey à l'origine.
Oui.
Oui, oui, absolument.
C'est
oui,
ça. Parce que...
Avec le BAT...
Parce que quelles que soient les qualités, on les a largement évoquées de Marabout, il y avait peut-être un travail éditorial, trop éditorial. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de syntaxe, etc., qui n'est pas la syntaxe... parce qu'il y a certains particularismes qui sont propres à Jean Rey, qui avaient été gommés, en fait. Voilà. Et donc, le texte est rétabli tel que l'a plusieurs fois validé Jean Rey. Puisqu'il a connu au moins, par exemple, pour, je pense au Conte du Whisky, au moins deux éditions.
Vite.
Voilà, donc il l'a validé plusieurs fois. Donc c'est celui-ci qui est repris chez Alma.
Ben, c'est que vous savez, on a gardé les fausses notes. Vous savez, Schoenberg qui donne ses textes, ses partitions à graver, et le graveur lui dit ben, écoutez, oui, non, pas de problème, on a simplement évidemment corrigé les fausses notes. Alors, Schoenberg, c'est quoi les fausses notes? Bon, là, c'est un peu pareil. On a laissé les fausses notes.
Voilà. Voilà.
Monsieur?
Vous avez parlé de Saint-Hilda de la Nuit.
Oui.
Si je me souviens bien, aux éditions Néo, il y avait un auteur qui appelait le livre des fantômes. Et à l'intérieur, si je me souviens bien, il y avait un texte où Nash Schoenberg voulait Saint-Hilda de la Nuit. Quand vous parlez de Saint-Hilda de la Nuit, je me
fais. Alors, là, je vous dis, là encore, c'est Arnaud Huftier qui est aux commandes. C'est lui qui pourrait vous dire. Je pense qu'il il doit trouver une version qui soit, qui soit encore autre, je pense.
Voilà. Parce qu'il y avait la version Lafon de Saint-Judas de la Nuit, mais qui n'était pas complète. Et celle-ci est avec, disons, la fin la plus plausible, la plus proche en tout cas du terme du récit de Jean Rey qui paraîtra.
Voilà, c'est surtout ça qui est important. Alors, par ailleurs, effectivement, on a des documents sonores. Je ne sais pas si on pourrait joindre effectivement un CD d'entretien, parce qu'il y a du pour finir clore la série de parutions. Moi, on m'a envoyé par la poste de mystérieux entretiens entre Jean Rey et Henri Verne. Je ne sais pas d'où ils viennent ni comment ils ont. Et bon. J'aurais un peu peur de m'en servir. Mais sinon, il y a pas mal d'entretiens. Il passait dans des magazines, Lecture pour tous. Et il y aura un assez joli CD à faire. Ça pourrait être un débouché aussi, un complément intéressant. Lié au livre. Et puis bon, après, on attendra le... Je pense que l'étape après, ce serait Jean Rey au cinéma. Ouais. Ouais. Oui. Là aussi, ça pourrait faire l'objet d'un. Ça a été conservé. Pour voir si les archives les conservent.
C'est très peu probable parce qu'en France, en tout cas, on connaît bien le Lina à conserver à partir des années 60.
Jean Rey, c'est très peu de choses à Lina. Hein. C'est 1 minute 30. Oui, je parle adaptation des textes, ça c'est une chose. Non, je parle de la voix de Jean Rey à Lina. J'avais fait une enquête, c'est 1 minute 30, que j'ai dû diffuser au moins 25 fois. Donc on va maintenant se calmer un peu. Mais je pense qu'à la radio et à la télé belge, il y a des choses.
Oui. Mais les archives sont moins bien tenues à la télé belge.
C'est comme ça que j'ai entendu Jean Rey. La première fois que j'ai donc pas lu Jean Rey, mais que j'ai découvert Jean Rey, j'étais tout petit, justement, dans une maison du Nord. C'était l'hiver, mes parents étaient partis en course.
Parfait.
Ils m'avaient laissé tout seul dans la maison, et on avait un poste de PSF. Et ils m'avaient mis la radio pour ne pas m'ennuyer. Et justement, j'entends « Tu es là, j'en suis bien contente. Tu es là. » C'est la fameuse
histoire. Ah, oui, oui, oui.
De maison, et qui rentre chez un voisin, et il espère entendre son horloge qui lui dit « Tu es là, j'en suis bien content. » Et c'était cauchemardesque. J'en ai
ses parents sont arrivés.
Le mal était fait.
Il était complètement affolé. Il a fallu l'édition des 25 ans de meilleure histoire.
Oui. Ah, qui est le redémarrage marabout, voilà. Qui est donc le gros recueil marabout qui a relancé Jean Rey, puisque c'est... il a été fait en collaboration. Je crois qu'il y a une préface célèbre de Henri Verne, et c'est le recueil qui a remis en selle Jean Rey.
Moi, j'avais rencontré, parce que j'avais fait une émission radio sur Jean Rey, et ça, bon, Roger Dextel, et puis tous ceux qui l'entouraient, Johan Den, et tout, et donc sa grand-tante, je ne sais plus une tante, et qui, vous avez vu ça, avec son accent magnifique gantois, enfin c'est il aurait une grand-mère Lakota quand même.
Génial.
Merci pour ces anecdotes. Il est 4 heures.
Oui, merci à ces merveilleux orateurs
qui vous ont fait aimer Jean Rey, j'espère.
Lisez Jean Rey.